en direct des studios à l'UQAM. Nous sommes les trois ce soir, les Apatrides Anonymes, pour vous présenter 70 minutes de musique et surtout de contenu sur différents enjeux qui sont les nôtres, c'est-à-dire le racisme, les frontières, les droits humains, l'extrême droite, les crises humanitaires, les abus, les dictateurs,
les racistes.
Les racistes. Simon est avec moi en studio.
Oui, c'est pas moi le raciste, mais oui, je suis là. Salut Mathieu.
Simon.
Salut Marie-Ève.
Salut Marie-Ève, tu es avec nous. Oui, elle est mise en onde pour l'instant. Donc, Simon et Marie-Ève vont nous parler, entre autres, des nouvelles sur l'Afrique. On va parler aussi de Grèce. On va parler d'enjeux de racisme ici. Il va y avoir les actualités autochtones dans quelques minutes avec Simon aussi. Moi, je vais vous parler dans quelques secondes d'immigration ici, Québec-Canada, parler de la Suède et de l'Union européenne, parler aussi des crises oubliées. Je vais vous faire l'agenda antiraciste. Je vous parlerai du projet de loi 57 en fin d'émission. Et on aura de la musique de Mdou Mokhtar, Benoît Paradis Trio et Random Killing.
Yeah.
Donc, nous sommes les Apatrides Anonymes sur choc.ca, sur le site, notre page d'émission, notre site à nous, apatridesanonymes.info. Et nous sommes aussi diffusés sur Radio Victoria, sur le FM, les mercredis et dimanches, dans l'ouest du Canada.
On va dire sur l'île de Vancouver.
Sur l'île de Vancouver, exactement. Donc, on commence avec quelques notes de musique et ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Toujours aux Apatrides Anonymes, mesdames et messieurs, émission du 13 juin. Je vais commencer avec quelques actualités immigration Québec-Canada. Ensuite, Simon suivra pour les actualités autochtones.
Et oui.
Petit suivi, Simon, d'une nouvelle t'as parlé il y a quelques semaines. Une Ontarienne est officiellement devenue citoyenne canadienne pour la deuxième fois.
Oui, oui. Je sais pas, on savait pas si elle avait payé les frais.
Attends. Okay. Après que le fédéral lui a annulé sa citoyenneté plus tôt en mai. Ariel Townsend, d'Ajax, avait initialement obtenu la citoyenneté canadienne lorsqu'elle était bébé. 32 ans plus tard, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada la lui avait retirée, affirmant qu'il s'agissait d'une erreur parce que sa mère n'avait pas encore prêté serment à l'époque. Madame Townsend a été invitée à prêter serment de citoyenneté le 17 mai dernier et recevra sa nouvelle carte de citoyenneté très bientôt. La femme a dû déposer une demande officielle pour devenir citoyenne, ce qui lui a coûté plus de 600 $.
Elle a payé les frais, eh bien.
Okay. Pour l'instant, son avocat espère que le gouvernement fédéral lui remboursera l'argent qu'elle a dépensé pour retrouver sa situation antérieure.
On le souhaite actuelle. De pas la perdre de nouveau par une erreur de fonctionnement.
Une erreur de papier, oui. Sinon, un peu inusité, mais un nouveau projet de loi déposé par le gouvernement fédéral permettra aux Canadiens de transmettre leur droit de citoyenneté à leurs enfants nés à l'extérieur du pays. Écoutez-moi bien. En 2009, le gouvernement conservateur de Stephen Harper avait modifié la loi afin que les parents canadiens nés à l'étranger ne puissent pas transmettre leur citoyenneté à moins que leur enfant ne soit né au Canada. Ceux qui n'ont pas eu accès au droit de citoyenneté à la suite de ces modifications sont regroupés sous l'appellation Canadien perdu.
Hein?
Pas errant, perdu.
Okay.
Or, la Cour supérieure de l'Ontario a jugé l'an dernier que le système actuel violait la Charte en créant deux catégories de Canadiens. Le projet de loi vise à annuler le changement de 2009 et à étendre la citoyenneté par filiation au-delà de la première génération née à l'extérieur du Canada, donc des droits acquis. Mm-hmm. Le projet de loi conférerait automatiquement des droits de citoyenneté aux enfants nés depuis 2009 qui ont été exclus avec la réforme de Harper à l'époque. Cela créerait également un nouveau test pour les enfants nés après l'entrée en vigueur de cette réforme en 2009, donc ils seraient obligés de faire une démarche, mais il y aurait un processus. Le projet de loi établira une nouvelle façon de confirmer la citoyenneté en remplaçant la limite de la première génération par l'évaluation des liens manifestes avec le pays. Donc, c'est plus juste exactement qui est né à quel endroit, mais s'il y a un lien avec le pays dans le projet de loi. Les parents nés à l'extérieur du Canada devront avoir passé au moins 3 ans au Canada avant la naissance ou l'adoption de leur enfant pour transmettre leur citoyenneté. Et là, terminant là-dessus, le gouvernement n'a aucune idée du nombre de personnes qui obtiendront automatiquement la citoyenneté si la loi est adoptée. Donc, les gens excluent les Canadiens perdus depuis 2009. Il y en a combien? Ils sont perdus, on ne sait pas. Fait qu'à suivre. Dernière nouvelle, le coût moyen lié à chaque demandeur d'asile qui arrive au Canada à partir d'un pays dispensé de l'obligation de visa s'élève à 16 500 $, révèle un rapport publié par le directeur parlementaire du budget à Ottawa. Ce coût suppose que le processus moyen de demande d'asile s'étend sur une période de 3 ans et demi. Le temps de traitement des demandes, qui peut aller d'un an et demi à 6 ans, influence le coût total qui incombe au fédéral. Les coûts totaux liés à chaque demandeur d'asile qui arrive au Canada avec une autorisation de voyage électronique, AVE, peuvent ainsi varier entre 9 000 et 40 000 selon le nombre d'appels interjetés avant qu'une décision définitive soit rendue et le temps que ça prend pour le processus, évidemment. Depuis la pleine réouverture des frontières canadiennes à l'automne 2021, près de 250 000 personnes ont demandé le statut de réfugié, dont 144 000 l'an passé. De ce chiffre, 27 000 sont arrivés au Canada avec une AVE, autorisation de voyage électronique.
Oui, oui, je savais.
Tandis que 82 000 sont arrivés avec un autre type de visa de résidence et 34 000 sans aucun visa. Le rapport du directeur parlementaire du budget s'est attardé sur la première catégorie, bien qu'elle représente le nombre de demandeurs le plus faible, mais c'est celle qui est en plus forte croissance, donc des gens qui arrivent avec des autorisations. On l'a vu dans plusieurs reportages dans les derniers mois. Le fédéral, pourquoi ça y coûte des sous à en particulier, il y a trois programmes. Le programme d'aide au logement provisoire, le programme fédéral de santé intérimaire et le programme d'aide juridique, en plus de d'autres frais, évidemment, administratifs au niveau des ministères. Donc, voilà des petites nouvelles que je voulais souligner à nos auditeurs et auditrices sur quelques petites choses qui se passent au niveau des enjeux d'immigration au Québec-Canada.
Des petites choses techniques un peu.
Techniques, mais qui peuvent nous faire comprendre des choses.
Oui, oui, quand même, mais c'est pas des montants si élevés si on tient compte qu'une fois que la personne travaille en impôts, elle va payer pas mal plus que ça.
Ben, tout à fait, quelques milliers de dollars, exactement.
Voilà.
Tout à fait, Simon. Donc, je te passe le flambeau pour ce qui est des actualités autochtones.
Quelques nouvelles brèves de ce qui est aujourd'hui l'Ontario et le Québec.
Okay.
Mais je veux d'abord faire une mise à jour sur le futur Conseil national de réconciliation dont le mandat sera d'évaluer et de rapporter les progrès en matière de réconciliation. La création de ce conseil, c'est une promesse fédérale dont la mise en place est assez laborieuse. C'était le 53e appel à l'action parmi les 94 demandes de la Commission Vérité-Réconciliation en 2015. Le 1er mai dernier a finalement été sanctionné la loi qui prévoit la création de ce conseil national qui sera indépendant et à but non lucratif et où vont siéger 9 à 13 membres issus des communautés autochtones. 9 à 13 membres en tout, les deux tiers autochtones.
Deux tiers, hein? Ouais.
Donc, presque 10 ans après la commission, c'est une étape quand même importante qui vient d'être franchie. Beaucoup d'observateurs accueillent cette nouvelle structure plutôt favorablement, mais tout en formulant certaines critiques qu'on peut résumer ainsi. Pouvoir et budget trop limités et sur le mandat, on juge à la fois trop modeste par rapport aux recommandations de la commission et trop ambitieux pour les pouvoirs et les budgets qui sont attribués, qui sont accordés au conseil. Donc, les budgets, d'ailleurs, reposent en partie sur les donations privées, ce qui est de garantir la récurrence ou la stabilité même à court terme.
Est-ce que tu l'as dit, le budget, c'était combien?
Le budget, je ne l'ai pas.
OK.
Peut-être
ça va dépendre des dons, donc, évidemment, je comprends.
Autre chose, le Conseil national de réconciliation n'aura pas, comme c'était recommandé, les pouvoirs d'une commission d'enquête, soit d'exiger qu'un organisme comparaisse devant un arbitre ou encore qu'il fournisse sur demande des données, des documents.
Ouais.
Donc, les ministères, les municipalités, les agences, les services de police, les églises, les compagnies extractivistes pourront toujours continuer à choisir de diffuser ce qui les fait bien paraître et cacher ce qui est moins reluisant.
Ouais.
Il faudra donc composer avec des données incomplètes, ce qui pose quand même un certain problème de crédibilité. Pour obtenir la collaboration des organismes publics, il faudra passer par la commission d'accès à l'information avec les résultats auxquels on peut s'attendre. Il va y avoir peut-être un peu de caviardage et par rapport aux entités privées ou confessionnelles, il faudra passer par les tribunaux avec les délais qu'on connaît puis les résultats aussi qui peuvent pas, il y a aucune garantie en fait. Donc c'est finalement un départ pour le Conseil national de réconciliation, c'est bien, mais c'est un départ plutôt boiteux et il y a de la place à l'amélioration, mais pour ça, il faudrait qu'il y ait des amendements proposés à la Chambre des communes, ce qui va probablement finir par se produire quand, dans 2, 3, 4 ans, tout le monde aura compris que le Conseil n'arrive pas à des résultats satisfaisants dans sa structure actuelle. On s'en va maintenant en Ontario.
Oh, on était où? On était au fédéral.
On était partout.
On était au fédéral.
C'est ça. Ben partout, dans ce qu'on appelle le Canada.
Oui, oui.
Donc, dossier assez médiatisé en Ontario, dont nous, ici, aux Apatrides, on a parlé à quelques reprises, le taux de pollution au mercure de la rivière Wabigoon ou rivière English, pour les English. Résultat de décennies de déversements toxiques autorisés par le fédéral dans les années 70-80 par la papetière Reed Paper à Dryden, dans le nord-ouest ontarien.
Ouais.
Contamination toujours présente dans les eaux, dans les sols, dans les poissons et dans les individus, même les jeunes. Le poisson est une des principales de ressources à Grassy Narrows.
Mm-hmm.
L'assainissement de la région étant toujours au stade de projet, la communauté a annoncé il y a quelques jours qu'elle allait finalement poursuivre les gouvernements ontariens et canadiens,
mm-hmm.
en espérant d'abord des compensations pour les dommages encourus, mais surtout pour que ça fasse bouger les choses. Même le centre de soins dont les budgets ont été alloués en 2017, la première pelletée de terre se fait toujours attendre. Dans le communiqué émis par le conseil de bande, on qualifie aussi cette poursuite comme un test quant aux réelles volontés de réconciliation de la part des différents paliers de gouvernement. Parlant du gouvernement ontarien, pour la première fois de son histoire, un élu s'est exprimé dans une langue autochtone à l'Assemblée législative à Toronto. Il s'agissait de Sol Mamakwa de la communauté de Kingfisher Lake. Il a parlé en Anishinaabemowin de revitalisation des langues autochtones, de l'interdiction dont elles ont fait l'objet depuis le début de la colonisation, des pensionnats dont il est lui-même un survivant. Il a même réussi à obtenir de Doug Ford l'engagement de livrer enfin les places promises depuis longtemps en centre de soins de longue durée pour les aînés autochtones.
Mm-hmm.
Il y avait dans le public sa vieille maman, qui l'a pas eu facile dans la vie, on peut s'en douter. Il y avait d'autres membres de sa famille et de sa communauté. Donc, moment émouvant, il disait qu'en parlant sa langue, il avait l'impression d'enfreindre un interdit, tellement que le conditionnement à cette interdiction est ancré et puissant.
Oui, ouais, depuis longtemps. Ouais.
C'est ça. Puis pour les promesses du gouvernement, ben ça, on verra plus tard.
Way forward, oui. Okay.
On se déplace maintenant au Québec. Ça brasse pas mal sur la question de la protection de l'enfance, pendant que la Commission des droits de la personne et de la jeunesse interpelle encore une fois, le gouvernement provincial pour que les enfants du Nunavik aient accès aux mêmes services de protection que la population générale. Il y a eu un revirement à Québec qui est passé un peu inaperçu. Le gouvernement a renoncé à la création du poste de commissaire au bien-être et aux droits des enfants autochtones.
Oui, ouais, on avait parlé de ça aussi, oui.
C'est considéré comme une bonne nouvelle. L'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador s'opposait à la création de ce poste-là parce que, étant donné l'historique très lourd, les enfants sortis de force de leur communauté, arrachés à leurs parents pendant des générations, on revendiquait donc depuis des années un transfert des pouvoirs et des ressources en matière de protection de l'enfance vers les communautés autochtones.
Mm-hmm.
La création de ce poste aurait été un obstacle important vers l'autonomie qui était réclamée, ben, qui est toujours réclamée. Donc, petite avancée un peu technico-légale, c'est ça, mais je trouvais quand même significatif. Je termine à Montréal, où les orphelins de Duplessis et les mères Mohawk s'unissent pour mettre en demeure la SAQ, parce qu'elle refuse de fouiller un site où elle prévoit agrandir un entrepôt où on est à peu près certain de trouver des dépouilles d'enfants. La recommandation de fouiller, elle est quand même sérieuse. Elle provient du groupe de travail sur les sépultures anonymes de l'Association canadienne d'archéologie. On parle du site de l'ancien hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine dans l'est de Montréal, autrefois appelé Saint-Jean-de-Dieu,
mm-hmm.
Où se trouvait entre autres ce qu'on appelait à l'époque un asile d'aliénés, où on se gênait pas pour envoyer des enfants autochtones un peu moins dociles que la moyenne. Certains survivants qui sont toujours en vie racontent qu'en plus de l'effacement culturel qu'on trouvait dans la plupart des pensionnats, on y pratiquait aussi des expériences médicales atroces. J'ai lu quelques exemples, je vais m'abstenir ici.
Okay.
La certitude de trouver sur le site des dépôts anonymes d'enfants explique probablement le refus de la SAQ d'envoyer les chiens pisteurs, c'est la première étape normalement, puisque inévitablement, ça retarderait leur projet d'agrandissement, donc ça ferait perdre de l'argent à la SAQ, surtout que son nouveau PDG, Jacques Farcy, ne gagne que 528 000 $ par année avant les bonnies.
Ben oui.
Je termine là-dessus.
Beaucoup plus que sa prédécesseur, d'ailleurs.
Oui, on voit sa face dans les succursales de la SAQ, c'est ça.
Oui, c'est ça. Oui, les grévistes, là, pas les grévistes, mais les syndiqués l'ont mis un petit peu partout.
Exactement.
Ouais. Juste à dire, sur la protection de l'enfance, par exemple,
oui.
le commissaire, OK, il n'y aura pas de commissaire pour les enfants autochtones, mais ça bouge pas au niveau de transfert de pouvoir plus là, pour les communautés. Au niveau de l'autonomie.
Non, je tenais seulement à souligner l'abandon de cette mesure-là.
Non, t'as bien fait, mais c'est juste que le reste va pas très bien non plus.
Non.
En conséquence, là.
Il va falloir qu'on en reparle. Peut-être même pas dans les prochains mois, je suis pas sûr qu'il va se passer grand-chose.
Ah, on va en parler, éventuellement. C'est sûr. Ouais, tout à fait. Ben, merci Simon pour les actualités autochtones un peu partout au pays, dont le Québec et l'Ontario. On va y aller en musique avec un groupe légendaire pour ceux et celles qui aiment le punk rock. C'est un groupe de Toronto qui existe depuis 40 ans, qui fête ses 40 ans cette année, donc donc ont été fondés en 1984. Ils ont sorti un album l'année passée qui s'appelle Bring Out Your Dead. Le groupe s'appelle Random Killing. Ils vont être en concert, donc ça se passe demain soir, vendredi le 14 juin au 24e Suoni per il Popolo, qui a commencé hier soir.
Je pense que tu vas être là, hein, Mathieu?
Je vais être là, là. Ben, oui, je vais être...
C'est votre chance de rencontrer Mathieu en personne.
Oui, à la Sala Rossa, demain soir, vendredi le 14. Ils vont être avec le non moins légendaire Corpus de Toronto et le quatuor féminin punk Bad Skin. Donc, on y va avec une pièce qui fait écho à ce qu'on vient de parler. La pièce s'appelle Genocide, A Future Denied. C'est bien le groupe Random Killing, la pièce Genocide, A Future Denied, qui parle évidemment de ce qui s'est passé au Canada depuis des générations et des décennies avec les Autochtones. Donc, groupe en concert, donc, en fin de semaine à Montréal, dans le cadre du Suoni per il Popolo. Donc, Marie-Ève est avec moi.
Oui, bien sûr. J'y suis.
Ben oui, rebonjour Marie-Ève. Tu vas nous parler de ce qui se passe en Grèce, ça brasse pas mal, hein?
Ça brasse, oui, puis c'est en fait, c'est qu'il y a une saga judiciaire qui vient de se terminer pour les organisations de défense des droits humains. Ce procès-là était une nouvelle illustration de la criminalisation des personnes migrantes en Grèce. Je vais y aller chronologiquement dans les faits parce que c'est quand même toute une histoire, là. Le 14 juin 2023, l'Adriana, qui est une embarcation qui était venue de la Libye avec plus de 750 exilés à bord, a fait naufrage dans les eaux grecques, entraînant la mort d'au moins 500 personnes. Il s'agit là encore aujourd'hui
on s'en souvient. Ouais, oui,
d'un des plus gros naufrages, des plus mortels en fait dans la Méditerranée. Il y a seulement 104 personnes qui ont survécu et
104?
Ouais. 104 qui ont survécu et seulement 82 corps qui ont été retrouvés. À peine 24 heures plus tard, 9 migrants égyptiens âgés de 27 à 37 ans ont été arrêtés. L'État grec les considérait comme des passeurs et les accusait d'être à l'origine du naufrage. Pourtant, ben assez rapidement, il y a des questions sur le rôle des gardes-côtes grecs qui surgissent. Selon plusieurs enquêtes journalistiques fouillées, ces derniers sont intervenus tardivement sur les lieux du naufrage Et d'après une enquête de la BBC, le bateau était à l'arrêt au large de la Grèce, contrairement à la version donnée par les cartes de côte grecques qui, eux, disaient que les exilés faisaient route vers l'Italie là à vitesse régulière, disons.
Okay.
De leur côté, les survivants aussi ont affirmé que les gardes-côtes auraient voulu remorquer le chalutier là avec une corde, genre, surchargé, puis là ça aurait fait tanguer le bateau, c'est ce qui aurait provoqué le chavirement. Et pour les avocats de la défense, les neuf de Pylos, comme on les appelle, ont toujours été là des passeurs qui ont des passagers qui ont payé leur place là, tu sais, comme les autres pour monter dans ce chalutier là, place qui variait là autour de 3 000 euros, a-t-on appris pendant le procès.
Une place en première classe, hein?
Oui. Oui, exactement. Là où ça brasse. Il y a donc un procès où les neuf Égyptiens sont les seules personnes poursuivies, vous l'aurez compris. Pas les gardes-côtes, rien de très étonnant, là, parce qu'aux yeux des ONG, pour qui le but du procès pour les autorités grecques n'était pas de faire la lumière tant que ça là, sur les conditions troubles de ce naufrage-là, mais une fois encore, d'utiliser l'arme judiciaire dans le but d'envoyer un message et de tenter de dissuader à la fois les migrants, mais aussi les passeurs qui les exploitent d'emprunter la route migratoire qui passe par la Grèce. Et donc, au premier et seul jour du procès, parce que le procès a duré 3 heures. Ça avait lieu le 21 mai. La justice grecque a acquitté les 9 Égyptiens et a abandonné toutes les charges retenues contre eux. La cour s'est déclarée incompétente pour juger cette affaire-là.
La preuve était bonne, hein?
Ouais. qui s'est déroulé hors de la Grèce, donc dans les eaux internationales. Ouais. Concrètement, il était les 9 hommes étaient accusés d'appartenance à une organisation criminelle, d'homicide par négligence et aussi d'avoir facilité l'entrée illégale de migrants en Grèce. Ils échappent donc à des centaines là, d'années de prison, puisque en vertu d'une loi grecque de 2014, il risquait, ça on avait déjà parlé aussi, il risquait 10 ans de prison par passager sur le navire, tu sais.
On cumule, c'est ça, ouais.
Exact. Ouais. Et non, mais là, l'histoire, ça s'arrête pas là.
Ben non,
puisque dès leur sortie du palais de justice, ils ont été transférés au commissariat en vue d'un placement en centre de rétention.
Pour être expulsés, ouais.
Exact. Ouais, je rappelle qu'ils venaient de passer 11 mois en détention provisoire. Les autorités grecques ont justifié leur décision par le fait qu'ils risquaient de fuir le pays parce qu'ils avaient déposé une demande d'asile, tu sais, mais bon. Selon la loi grecque, les personnes originaires de nations dont le taux de reconnaissance de la protection internationale est le plus bas, comme l'Égypte, peuvent être placées en rétention pendant 50 jours renouvelables, même s'ils ont déposé une demande d'asile. Mais en théorie, les survivants, survivantes d'un naufrage sont exemptés de cette mesure-là.
Bon, okay. Ouais, donc, c'est dur à suivre.
Le 29 mai, donc 4 ans entre eux, je vous rappelle là, que c'était le 21 mai que le procès avait lieu. Dès leur sortie du tribunal, paf, sont arrêtés. Une semaine plus tard, 4 d'entre eux ont enfin été libérés pour justifier leur libération. Les avocats ont rappelé au tribunal que ces personnes-là étaient des survivantes d'un naufrage, qu'elles devaient donc être considérées comme des personnes vulnérables selon la loi grecque. Ces migrants-là peuvent pas être placés en rétention puis doivent pouvoir aussi bénéficier d'une aide psychologique. Ils avaient aussi été innocentés d'entrée illégale dans le pays, donc ça avait aucun sens, c'est que de les enfermer encore, ni même de dire qu'ils pourraient s'enfuir, là, selon leurs avocats.
Ouais.
Les 4 libérés ont rapidement quitté là, la région du Péloponnèse pour vivre à Athènes au moins là, le temps du traitement de leur dossier d'asile. Puis quant aux 5 autres, ben on n'a toujours pas de nouvelles. Leur avocat exclut pas d'aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme si la justice nationale leur donne pas raison. Et puis, ben, quant aux gardes-côtes, en terminant, là, je termine là-dessus. En septembre, il y a une cinquantaine de rescapés qui ont déposé une plainte contre eux.
Ah oui?
Donc, ça sonne pas nécessairement tout ça la fin du procès la fin de cette histoire, finalement, là, de l'épilogue judiciaire du naufrage de Pylos.
Ouais, les brillants qui ont mis une corde là pour le remorquer, là. Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Seigneur. Puis, est-ce qu'on sait pourquoi ces 9-là ont été visés? On sait pas.
Ça a été random, apparemment. Ce que j'ai lu, c'est que c'était assez nébuleux, là. Tu sais, c'était sur la base de 9 témoignages seulement.
Ah, ouais.
Ouais.
Okay. Fallait trouver des boucs émissaires, donc. Ouais. Ben merci Marie-Ève pour la Grèce. Moi, je poursuis en Europe avec ben des nouvelles, évidemment, en lien avec l'immigration. Après le Parlement, le Conseil de l'Union européenne valide le pacte Asile-Immigration. Le Conseil de l'UE a formellement adopté à la mi-mai le pacte Asile-Immigration. Cette réforme qui renforce les contrôles aux frontières n'entrera en vigueur qu'en 2026. Sans surprise, la Hongrie et la Pologne ont voté contre tous les textes. L'Autriche et la Slovaquie, eux, ont voté contre certains textes parce que c'est une espèce de pacte avec différentes lois. La réforme met en place une procédure de filtrage, entre guillemets, des migrants aux frontières de l'UE pour les identifier et distinguer plus rapidement ceux qui ont des chances d'obtenir l'asile de ceux qui vont être envoyés vers leur pays d'origine plus rapidement. Ceux qui ont statistiquement le moins de chances d'obtenir l'asile seront retenus dans des centres le temps que leur dossier soit examiné, 6 mois maximum, officiellement. Ce pacte établit aussi un mécanisme de solidarité, entre guillemets, entre les 27 pays dans la prise en charge des demandeurs d'asile, particulièrement en situation de crise, entre guillemets, quand il y a beaucoup de monde qui arrive. À côté de cette réforme, en parallèle, l'UE multiplie les accords controversés avec les pays d'origine et de transit des exilés. On en a parlé, Tunisie, Mauritanie, Égypte, pour tenter de réduire le nombre d'arrivées à ses frontières. Attendez un instant. Oui, voilà. Plus récemment, on a su aussi qu'un groupe d'États européens amené par le Danemark et la République tchèque s'apprête à envoyer une lettre dans laquelle ils plaident pour transférer des migrants hors de l'UE. Ces nouvelles propositions sont destinées à la prochaine commission qui prendra ses fonctions après les élections européennes du week-end dernier. Donc, le 6 mois de détention, là, avant qu'ils soient renvoyés, il voudrait que ça soit en dehors des frontières de l'UE, que ces personnes-là soient détenues.
OK, fait que non seulement on va sous-traiter le renvoi des migrants, mais on va sous-traiter la détention des migrants.
Ouais, c'est ouais,
ça,
tout
c'est, coudonc, ça va de mieux en mieux.
Ça va de mieux en mieux. Tu vas voir, en Suède, ça va bien aussi. Les fonctionnaires suédois devront-ils dénoncer les personnes sans papier avec qui ils sont en contact? C'est ce qu'envisage une proposition de loi portée par le gouvernement de droite, alliée au parti d'extrême droite, qui veut à tout prix accélérer l'expulsion des migrants en situation irrégulière. Les fonctionnaires ont d'ores et déjà appelé à la désobéissance civile. Je cite la présidente du syndicat des enseignants, Johanna Yara Astrand. Tous les employés du secteur public doivent être exemptés de cette future loi. Aucun professeur, directeur d'école, médecin, infirmier, bibliothécaire ne s'est engagé dans son métier pour faire de la délation.
Mais non, effectivement.
Le personnel médical aussi refuse de se soumettre à cette loi éventuelle. Quelques 4000 soignants ont signé une tribune pour dénoncer un texte de loi qui va à l'encontre du serment d'Hippocrate. Cela équivaut à instaurer une espèce d'état policier, explique Michel Levoix, présidente de PICOM, une ONG de défense des droits des sans-papiers. Les risques encourus par les fonctionnaires qui ne se plieraient pas à l'injonction du signalement ne sont pas pour l'instant définis. La mission d'information parlementaire sur cette proposition de loi très controversée va durer jusqu'à l'automne. Donc, obliger la délation des fonctionnaires. On a déjà vu ça dans d'autres contextes, hein, Marie-Ève?
Oui, ben oui, avec les ambulanciers, entre autres, puis les pompiers ici même.
Exactement. Ouais. Oh, oui, tout à fait. Job de police. Donc, ben voilà, fait que c'est des petites nouvelles européennes que je voulais vous souligner.
J'imagine qu'éventuellement, dans une autre émission, on va revenir sur les élections européennes.
Oui, là, c'est un petit peu trop à chaud pour en parler, puis tous les médias en ont parlé.
Là, ça chie un petit peu en France.
Oui, ben ça, la France, écoute, on aime ça.
Ça va continuer.
La tragicomédie macroniste. Après la Chiraki, la Macronie, qu'est-ce que tu veux? On est pris avec ça. On va y aller avec quelques notes de musique et après, Marie-Ève nous parle d'enjeux de racisme ici, au Québec-Canada. Toujours sur les ondes de choc.ca,
ça saute.
En ligne, en direct, sur le web, avec un indicatif musical. Donc, je vous rappelle que c'est l'émission du 13 juin et pour ceux et celles en direct, il est presque 19h.
Je salue d'ailleurs les choix d'indicatifs de Simon.
Oui, toujours très inventif.
Oui, mais c'est pas moi qui compose.
Non, c'est la technique et le mixage qui est important. Donc, Marie-Ève, tu nous parles de différents sujets, j'imagine.
Oh oui, vous allez voir que si ça chise en Macronie, dire qu'on est, on a nos petits morons.
Chez mon oncle Legault, chez mon oncle François, ouais, ça va bien.
Hein? Je reviens en fait sur un article que Radio-Canada a publié à la fin mai. Un article que je veux revenir là-dessus parce que je pense que ça vaut la peine, parce que ça démontre à quel point la ligne peut être fine entre petit racisme ordinaire et racisme systémique. Mm-hmm. C'est un article qui est intitulé « Il y a trop de noirs ici, racisme dans le milieu de la santé ».
Ah oui.
C'est un reportage qui donnait la parole, entre autres, là, à des préposés aux bénéficiaires noirs d'un CHSLD de Drummondville qui dénonce des propos racistes et dégradants de la part de collègues et de patients à leur endroit, et qui critique aussi, surtout, c'est surtout ça le point, la manière dont la direction a traité leur demande, ben leur plainte, dans le fond. Ce sont des employés du centre d'hébergement Frédéric-Georges Hériot. La situation était devenue tellement pénible que, à l'automne dernier, il y a une pétition signée par 27 employés d'origine africaine et haïtienne dénonçant le racisme qui a été remis au gestionnaire. On peut y lire là des mots, les mots qu'ils utilisent, ces employés-là, pour décrire leur réalité, des mots comme esclave, terrorisé, abandonné et méprisé, dégoût, disons qu'on est loin de la violence symbolique, là. Puis dans le reportage de Radio-Canada, on parle de propos de la part de collègues comme, puis là aussi, je vous épargne les pires, là, maintenant, il y a trop de Noirs ici qui travaillent sur l'unité, ou encore, bienvenue à Montréal-Nord, tu sais. Ici, on est au Québec, si vous parlez votre langue, retournez chez vous.
OK, les classiques,
Il y a un employé qui raconte que des collègues le critiquaient dans son dos, il disait qu'il dégageait des odeurs et qu'il puait parce que c'était un Noir et qu'il mangeait parce qu'il mangeait trop d'épices africaines.
Ben oui. Et les fameuses épices africaines.
Oui. Et puis, c'est sans parler...
les épices de Montréal, les épices africaines.
Oui, c'est ça.
Seigneur.
Les épices aztèques de Montréal. Bref, et dans le cas des... c'est sans parler là, des propos, évidemment, des résidents qui utilisent le mot en haine. Ouais. Dans le cas de résidents, la vieillesse ou les pertes cognitives ont le dos très large, on le sait. Le refus de certains résidents d'être approchés par des personnes noires et même par fois écrit mot à mot dans le plan de travail remis au proposé aux bénéficiaires. Bref, quelques jours après avoir reçu la fameuse pétition, le CIUS a envoyé un accusé de réception à chaque employé disant prendre la situation au sérieux. Au centre d'hébergement, la gestionnaire a organisé plus d'une trentaine de rencontres individuelles à propos desquels les employés disent, somme toute, là, avoir constaté l'empathie de la gestionnaire et l'avoir aussi entendu s'engager à ne tolérer aucun racisme, c'est le mot qu'elle a utilisé. Sauf que dans le message vidéo qu'elle a publié à la fin septembre sur Facebook, dans un groupe privé là à l'intention des employés, ben le terme racisme a complètement été évacué. Hein. Elle y parle plutôt de cas d'incivilité et de manque de courtoisie et de considération pour l'autre. Or, je rappelle que selon le rapport de la coroner Gayane Canmel sur la mort de Joyce Echaquan, ben lorsque le système répond en étant sur la défensive, c'est la définition même du racisme systémique. Puis ben réduire les violences raciales à de l'incivilité ou à des problèmes interpersonnels empêche de s'y attaquer. Puis ça constitue aussi du gaslighting racial, c'est-à-dire, je vous explique le gaslighting, c'est un type de violence psychologique qui consiste à remettre en question la véracité des expériences, des sentiments ou des croyances d'une personne. Et donc, la porte-parole du CIUS, Caroline Gadouri, dit à propos de la vidéo avoir là, voulu éviter de créer davantage de scissions ou de clans entre les groupes. Elle assure que des employés ont été sanctionnés, mais elle précise pas combien, ni les actes reprochés, ni les sanctions imposées pour des raisons de confidentialité. L'institution, le CIUS, a élaboré un plan d'action dont elle compte faire bénéficier l'ensemble des 27 CHSLD de la région d'ici 2025. Et là, ben, on parle de dépliants, de sensibilisation au conflit, de formation des gestionnaires, de consultation d'experts.
Des webinaires.
Voilà. Et puis, ben, en avril, il y a la représentante syndicale des 3000 préposés aux bénéficiaires de la région Maurice-Centre du Québec qui est venue rencontrer les employés qu'ils désiraient. Donc, c'est pas qu'il s'est rien passé, mais comme...
C'est resté bureaucratique, là.
C'est ça.
Ouais.
Il y a, je vais vous expliquer quand même parce qu'il y a l'avocate Tamara Termitus qui signe une chronique vraiment super pertinente puis intéressante sur Pivot qui s'intitule « Mettre fin au gaslighting racial, une question de gouvernance ». Je vous invite à aller le lire. Je résume, là,
ouais,
tu sais.
Ouais, ouais, ton article.
Mais dans le fond, tu sais, elle considère, elle, que c'est pas par des politiques de gestion comme celle de EDI, là, tu sais, équité, diversité, inclusion, que les droits fondamentaux des personnes sont respectés, que les politiques d'inclusion peuvent pas éradiquer comme par magie là, le racisme incrusté dans les structures. Elle dit qu'on peut pas ignorer le fait que les initiatives EDI sont souvent désertées, que les directions d'EDI ont fait l'objet là, de beaucoup de coupures. Puis que ça continue et que les personnes qui les dirigent ou les dirigeaient ont souvent dénoncé leur confinement à des fonctions symboliques alors que ces postes-là devraient être transformateurs et émancipateurs. Et elle rappelle que l'article de Radio-Canada démontre les conséquences du refus du gouvernement Legault de reconnaître le racisme systémique. Et donc, parlant du gouvernement Legault, Bernard Drainville, lui, ben, il dort au gaz, littéralement, dans le dossier d'un enseignant dénoncé pour ses propos islamophobes. Je résume, là, ce qui s'était passé. Les élèves de ce professeur-là, qui enseignait en plus éthique et culture religieuse à l'école secondaire La Voix, dans le quartier Côte-des-Neiges, un quartier multiethnique, s'il en est un.
À Montréal,
oui. Oui. Il avait remarqué, les élèves avaient remarqué en rentrant en classe un jour de septembre 2022 que le symbole de l'islam et avait été recouvert d'une feuille de papier sur une affiche où toutes les autres grandes religions étaient représentées.
Oui.
Puis quand une élève lui a demandé pourquoi, ben le prof a répondu que c'était parce que le prophète Mahomet avait épousé une enfant et qu'il voulait pas promouvoir ce type de comportement-là. Il aurait aussi mis au défi les élèves de lui prouver le contraire, sans quoi ben il afficherait pas de symbole de l'islam et n'enseignerait même pas ce qui s'y rattache.
OK, dans son cours d'éthique et religion.
Exact.
Ouais.
Et donc, à la suite là, de plaintes là, de la part d'élèves, entre autres, la direction de l'établissement l'avait assigné à domicile dès le lendemain, avant d'être transféré dans une autre école, deux mois plus tard, par le Centre de services scolaires de Montréal. Et donc, ben, Bernard Drainville a fini par former un comité d'enquête qui a remis un rapport accablant en novembre 2023 qui conclut, entre autres choses, là, que la conduite de l'enseignant constitue bel et bien une faute grave. On peut aussi y lire que, loin d'être repentant, l'enseignant a plutôt riposté aux plaintes formulées contre lui durant son témoignage. Il y a plusieurs des réponses qu'il a données qui constituent des commentaires discriminatoires, empreintes stéréotypes islamophobes et racistes. Et pour justifier ses actions, ce qu'on lit encore dans le rapport, il a par exemple déclaré, et je cite, « Plus il y aura de musulmans au Québec, plus ils voudront y implanter les valeurs de l'islam au détriment de notre héritage chrétien et juif, ce qui amènera son lot de répercussions, surtout négatives pour nos valeurs québécoises. » Bref, ce prof-là, ben, c'est un adepte de la théorie du grand remplacement.
Ouais.
Et donc, ben, pourquoi j'en parle, c'est que malgré les conclusions là, formulées par le comité dans le rapport, puis que soit entre les mains du gouvernement depuis plus de 6 mois, ben non seulement il n'y a aucune décision qui a encore été rendue publique, là, à savoir si une sanction doit être imposée ou pas, mais comme je disais, ce dernier donne toujours le code d'éthique et de culture religieuse dans une autre école secondaire.
Fait que Drainville est trop occupé avec le troisième lien pour s'occuper de ces enjeux-là dans son ministère, hein, finalement, c'est ça?
J'imagine.
Pauvre mec, hein, quand même. Ouais.
Vous pouvez aller lire l'article de Radio-Can là-dessus, mais c'est beaucoup plus long, là, tu sais. Ouais.
Les péripéties.
Mais en
là.
Gros, c'est, ouais. C'était ça. C'est un peu déprimant.
Ah là là. On va y aller en musique. On va écouter de la musique montréalaise, québécoise, en français. Mais non, mais c'est vrai, on n'en a pas à chaque émission.
Oui, de bien québécoise de chez nous.
Oui, après le centre scolaire de Montréal.
En français.
Donc, Benoît Paradis Trio, la pièce Chaise musicale.
Y'a une tradition qui change à Montréal, c'est celle de jouer à la chaise musicale. On peut dire que ça se passe un peu partout, le jeu est rendu fou. Essaye de trouver un logement abordable, les bruits montent en flèche, c'est épouvantable. Partout ça se demande comment joindre les deux bouts. Ça te prend un deuxième job si tu veux rester chez vous. Une chose qui devient de plus en plus normale, une lettre qui t'annonce des rénovations, assortie de 200 piastres d'augmentation par mois, ça fait mal. Ow! Imagine-toi 2 secondes sur l'aide sociale. Impossible de vivre dans ton quartier natal, ni dans ce autour, tu te ramasses loin de tout. Le jeu est rendu fou, essaye de trouver un logement pas minable ou ben un correct à un prix raisonnable. Y'en a qui montent les enchères qui ont plus de sous. Le jeu est rendu fou. Oui, c'est un phénomène international. Si t'es pauvre, t'es vieux ou monoparental. Puis si tu viens de Manawan ou de Tombouctou, t'as moins de chances de trouver un chez vous à ton goût. Et si tu travailles au salaire minimal, à l'augmentation, tu offres une opposition. Bientôt, tu reçois un avis d'éviction. De la chaise musicale, manque toujours une place, c'est la règle principale. Toi, combien de temps tu penses tenir le coup? C'est une vraie maison de fou, c'est une vraie maison de fou. On est dedans jusqu'au cou. Oh, oh, oh.
Donc, toujours à l'émission Les Abatrides Anonymes, donc c'était ma pièce franco-québécoise pour affirmer notre identité. Non, c'était Montréalais, c'est Benoît Paradis Trio, chaise musicale de l'album La Tête Ailleurs, sorti en septembre dernier.
C'est nous autres, ça.
Ça parle, comme vous l'avez entendu, de la crise du logement au Québec. J'aime bien Benoît Paradis Trio, il est actif depuis 2006 avec son trio, il a changé des fois de musicien ou de partenaire. Actuellement, c'est lui est à la voix, percussion, trombone, trompette, avec Benoît Coulombe à la contrebasse et Chantal Morin au piano. Mélange de jazz, poésie, chanson, avec un spectacle qui fait un peu d'interprétation théâtrale, un peu basé sur les vieux chanteurs français, entre autres. Intéressant. Le texte était vraiment bon. Si vous l'avez manqué, réécoutez-le. Et il va être en tournée des festivals au Québec durant tout l'été avec son nouvel album. Donc, Benoît Paradis Trio. Simon, tu avais une précision à faire.
Ben, tu m'as posé une colle tantôt sur le budget du Conseil national Vérité et Réconciliation. Je suis allé vérifier, donc j'écoutais pas ce que Maria
disait. Simon faisait ses recherches.
J'ai fait mes recherches. Donc, c'était 126 millions qui étaient prévus pour démarrer le Conseil national.
Ouais.
Une partie sera investie dans une fiducie dont les intérêts vont permettre de le financer en plus de dons privés. Donc, je trouve que c'est pas tout à fait clair. Là,
ouais, une espèce de patente. Hein?
Une patente, ouais. Même qu'on se demande si c'est pas louche un peu.
Ben voilà, c'est ça. On va surveiller ça. On continue à l'international. Moi, je vous parle de crise négligée. Le Conseil norvégien pour les réfugiés a rendu public la semaine passée son rapport annuel recensant les 10 crises de déplacement les plus négligées au monde en 2023. Mm. Négligées parce qu'on sait qu'elle existe, mais qu'on choisit de ne pas s'en occuper parce que les médias en parlent peu ou pas du tout et parce que la réponse politique et le financement de l'aide sont loin d'être à la hauteur des besoins. Là, je cite le rapport, évidemment. Cette année, l'accent est mis sur le Sahel, où se situent quatre pays de la liste, 5 si on y ajoute le Cameroun, qui se trouve à la lisière du Sahel. Pour la deuxième année consécutive, le Burkina Faso est le premier. Le pays a atteint en 2023 les pires niveaux de violence depuis le début du conflit qui sévit en 2019, avec un nombre record de civils tués ou forcés de fuir. Des milliers d'écoles ont également dû fermer leurs portes à la suite d'attaques. Au Mali et au Niger, les problèmes sont semblables avec une situation sécuritaire qui s'est dégradée à cause des attaques des groupes armés qui s'en prennent aux civils. Sans moyen de subsistance, ils souffrent d'insécurité alimentaire et de malnutrition. Il y a eu une aggravation de la situation ces derniers mois et une diminution des financements humanitaires au Sahel. Cette baisse du financement est liée au récent coup d'État militaire, les grands bailleurs de fonds ayant décidé de se retirer dans la foulée. En conséquence, des services comme la santé ou l'éducation qui étaient auparavant assurés par l'État grâce à un appui budgétaire externe ont disparu. Les personnes qui en bénéficiaient doivent donc se tourner carrément vers l'aide humanitaire qui encaisse donc une pression supplémentaire. Et le financement des ONG qui mettent en place des projets de développement à plus long terme est également suspendu. Cela pourrait donc avoir des conséquences pendant plusieurs années. Donc, une espèce de cercle vicieux. Il y a bien une attention médiatique sur le Sahel, mais elle est concentrée sur l'angle sécuritaire. On ne mentionne jamais le fait qu'il y a des millions de personnes qui sont en train de souffrir de faim dans cette région d'Afrique. Parmi les nouveaux venus sur ce triste palmarès, on retrouve la République centrafricaine, le Soudan du Sud et le Tchad. Il s'agit pourtant de crises en cours depuis des années, parfois même des décennies. Le Tchad s'est retrouvé en haut de la liste à la suite de la crise au Soudan, dont Simon va nous parler dans quelques minutes. Des milliers de réfugiés affluent de la région soudanaise du Darfour, s'ajoutant aux Tchadiens qui y habitaient et qui veulent maintenant rentrer dans leur pays vu que la guerre est prise. Le Soudan fait partie de la liste depuis plusieurs années, tout comme la République démocratique du Congo et le Cameroun, dont on entend parler moins souvent.
C'est vrai.
Ce dernier est un pays qui ne vit pas seulement une crise négligée, mais également une crise oubliée, selon le Conseil norvégien pour les réfugiés. Ce sont en fait trois crises en une. Il y a d'une part les réfugiés originaires de la République centrafricaine installés au Cameroun dans les années 2010, les réfugiés nigérians qui ont fui les exactions commises par Boko Haram, puis ceux qui s'échappent des griffes des groupes armés indépendantistes anglophones du Nigeria dans l'ouest du pays actuellement.
Et qui sont moins connus quand même. Selon.
Exactement. On avait parlé une fois, je pense, des enjeux de entre différentes ethnies là au Nigeria, mais ça revient de temps en temps dans l'actualité. Je termine avec un dernier pays. Un manque criant de financement, c'est ce qui arrive également au seul pays non-africain sur la liste, le Honduras, qui apparaît dans les 10 premières places pour la première fois.
Okay.
Plus de 3 millions de personnes ont besoin d'aide alimentaire, déplacées par la violence des groupes criminels ou par la crise climatique. S'y ajoutent quelques 800 000 migrants venant de partout dans le monde qui transitent par le pays avec l'objectif de se rendre aux États-Unis. Il y a des gens de 110 différentes nationalités actuellement qui sont considérés comme déplacés au Honduras. Malgré les besoins humanitaires et le nombre très important de personnes touchées, le Honduras est le pays le moins bien financé au monde dans les plans de réponse humanitaire. En terminant, dans le monde, donc en 2023, l'écart entre les appels humanitaires et l'argent effectivement reçu s'élevait à 32 milliards de dollars, soit 10 milliards de plus qu'en 2022. Ça, c'est l'écart entre les besoins et ce qui est donné. Ce déficit signifie que 57% des besoins sont restés insatisfaits en termes d'aide humanitaire pour les pays où il y a des problèmes de déplacement de population. Donc, super intéressant, le Conseil norvégien pour les réfugiés, vraiment, qui font des rapports vraiment pertinents, Simon. Hein?
On ira les... peut-être qu'il y en a plus aussi qu'on pourrait aller consulter.
Aller consulter, tout à
Moi,
fait.
Moi, je retiens Tchad et Cameroun et Honduras, là, peut-être les questions migratoires dont on parle peu, là, faudra fouiller ça dans
Exactement.
Les prochaines
semaines. Exactement, oui, tout à
fait. Donc, moi, je vais vous parler du Bénin, dont je crois qu'on n'a jamais parlé non plus aux apatrides.
Ça se pourrait, oui, tout à fait.
Mais je commence avec... je complète un peu sur ce dont tu parlais, le Soudan et les pays limitrophes. Ça, on en a parlé quand même à quelques reprises. Je vous parle surtout de camps de réfugiés. Le Soudan, qui est depuis plusieurs mois dans une reprise intense des violences armées en différentes factions et dans différentes régions du pays. C'est pas nécessairement les mêmes acteurs impliqués et les mêmes enjeux dans chaque région. Là. C'est quand même très complexe.
Ouais.
Une des situations qui retient notre attention, c'est dans le Darfour du Nord, qui est en réalité l'ouest du Soudan, à la frontière du Tchad,
exact.
Justement.
Ouais.
Dans et autour de la ville de El Fasher, région qui était jusqu'à maintenant épargné par les combats et où on estime à 800 000 le nombre de migrants des autres régions du pays qui avaient trouvé refuge. Il y a le camp de Abu Chouk qui comptait 250 000 migrants qui se trouve maintenant, depuis quelques jours, en fait en plein milieu des tirs et des bombardements. On pense même qu'il a été volontairement visé, plusieurs dizaines de morts, des centaines de blessés, on n'a pas le compte officiel. Ça a dégénéré très rapidement. La majorité des réfugiés ont quitté le camp apeurés dans toutes les directions, sans eau, sans nourriture, dans une région désertique et maintenant en guerre.
Oui.
Tout ça dans les derniers jours, comme je disais. Les organismes humanitaires qui peinaient déjà à faire fonctionner les camps et assurer les besoins de base parce que les camps grossissaient très rapidement, étant donné que les autres régions étaient en conflit.
Oui.
Mais les ONG sont complètement dépassées à l'heure actuelle. En fin de semaine dernière, le dernier hôpital qui était encore fonctionnel à Al-Fasher a été détruit par le principal responsable de ces nouvelles violences, les forces de soutien rapide, les FSR, qui est à la fois paramilitaire et gouvernementale, donc c'est un des principaux groupes paramilitaires au Soudan, qui, sous prétexte de combattre les rebelles et les djihadistes, n'hésitent pas à s'en prendre aux civils, qui, en même temps que les réfugiés, doivent fuir, donc devenir à leur tour des déplacés, que le HCR et ses alliés, tout en essayant de sécuriser leurs propres travailleurs et leurs équipements, essaient de diriger vers un secteur un peu plus au nord qui est contrôlé par un autre groupe paramilitaire. Mais toute cette logistique, on s'entend que c'est pas facile dans un tel climat de violence et de panique. Donc voilà pour le Darfour du Nord. C'est difficile d'avoir des informations très claires parce que...
Il n'y a pas de médias.
Il n'y a pas de médias. Les travailleurs humanitaires n'ont pas nécessairement accès à des moyens de communication.
Non. C'est un peu fermé actuellement.
C'est ça. C'est vraiment très... c'est opaque. Donc, à l'extrémité est du Soudan, complètement de l'autre côté, la situation aussi est très compliquée. Dans cette région, ça fait plus d'un an que les conflits font rage, mais on assiste aussi à une intensification des violences dans les dernières semaines. Donc, les milliers d'exilés du Congo, de l'Érythrée, du Burundi, Centrafrique, sont contraints de se déplacer une deuxième fois. Ils se dirigent massivement vers l'Éthiopie, où le gouvernement éthiopien ne reconnaît pas leur statut de réfugié, contrairement à ce qui était le cas au Soudan. Sauf le gouvernement éthiopien reconnaît le statut de réfugié aux Soudanais seulement.
Okay.
Mais il y avait déjà plusieurs réfugiés de d'autres pays de la grande région.
Ouais.
Donc, statut temporaire pour les réfugiés soudanais, mais pour les autres, on exige des visas à 100 $ US par mois. avec 10 $ de pénalité par jour si c'est pas renouvelé à temps pour des personnes à qui on refuse un permis de travail. Donc, tout ce monde qui était en règle au Soudan se retrouve plongé dans la clandestinité en Éthiopie, se fait arrêter et imposer des montants importants pour récupérer leur passeport confisqué. Bref, situation intenable à la fois dans plusieurs régions du Soudan et dans plusieurs pays limitrophes. Et là, je vais résumer ça très sommairement. Seulement 2 régions sur les nombreuses régions du Soudan, mais ailleurs, ça brasse aussi.
Ouais.
Les derniers chiffres du HCR pour l'ensemble du pays donnent le vertige. 410 000 réfugiés qui vivaient au Soudan ont été contraints de retourner prématurément dans leur pays d'origine. 1,4 million de Soudanais et Soudanaises ont fui leur pays pour se réfugier dans les pays voisins. Et 6 millions de personnes ont dû se déplacer à l'intérieur du pays. Je termine en Afrique de l'Ouest, au Bénin, où les premiers migrants rentrés dans le pays de manière soi-disant volontaire dans le cadre d'un programme de retour de l'Union européenne et de l'OIM, l'Organisation internationale pour l'immigration, sont arrivés à l'aéroport de Cotonou à bord d'un avion en provenance de Tunisie.
Ah oui.
Ces candidats à l'immigration européenne n'ont jamais atteint leur destination finale malgré des parcours migratoires de 5, 10, 12 ans impliquant des milliers de kilomètres de marche, des tentatives échouées de traverser la Méditerranée, toutes sortes d'éléments hostiles le long du trajet. Pour plusieurs, le fait d'être plus ou moins coincé en Tunisie dans un climat anti-noir violent, ça a été la goutte qui a fait en sorte qu'on a accepté cette offre de retour, avec laquelle vient quelques compensations et quelques aides à la réintégration.
Ouais.
C'est pas le premier vol de retour organisé par l'OIM. Il y en a eu en Gambie, en Côte d'Ivoire, entre autres. Mais c'était une première pour le Bénin et 173 migrants d'un seul coup, c'est quand même pas mal. On va espérer que leur retour se passe mieux que pour leurs confrères ivoiriens, où on qualifie de maudits ceux qui ont échoué dans leur tentative de migration vers l'Europe, en leur faisant vivre toutes sortes d'humiliations, étant donné que dans bien des cas, c'était la communauté, la famille élargie qui avait aidé financièrement à la migration en espérant un retour sur investissement via des transferts en espèces à partir de l'Europe, transferts d'argent qui ne se sont évidemment jamais concrétisés.
Ben oui, on avait parlé de la Gambie il y a 2 semaines, puis t'as raison que le retour au bled peut être difficile pour les gens. Là.
Ben le bled, je pense que c'est plutôt au Maghreb qu'on...
Ah, en Afrique aussi.
Ah oui, okay.
En Afrique subsaharienne, oui.
Non, retour pas plus facile que la tentative de se rendre vers
l'Europe. Non, tout à fait, c'est très...
Ben, c'est pas plus facile, peut-être. Enfin.
C'est dramatique. Merci Simon pour on s'est bien complété dans nos nouvelles en Afrique. Donc on va passer à l'agenda Marie, on part de thème. Donc je voulais vous dire en premier lieu que cette semaine il y a eu 2 lancements de revues. Celle du CEDAL qui s'appelle Caminando. Le nouveau numéro s'appelle Voix des peuples, défis face à l'autoritarisme. Et la Ligue des droits et libertés a lancé son nouveau numéro de Droits et libertés, dont le dossier est consacré aux enjeux liés à l'incarcération au Québec. On en a déjà parlé, ça va être intéressant. Sinon, en fin de semaine, il y a 2 événements un peu semblables dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Il y a le camp climat S'enraciner et fleurir qui commence aujourd'hui jusqu'à dimanche 16 juin au boisé Steinberg. C'est pour la 4e année consécutive et c'est dans le but de créer, de prendre soin d'un terrain vague qui va être récupéré éventuellement pour faire toutes sortes de travaux, genre de routes et d'autoroutes. Il y a plein d'activités durant toute la fin de semaine. Allez-y, il y a des randonnées guidées du coin, il y a du cinéma, des ateliers, de la musique, des soupers gratuits, des activités artistiques. Et ça se termine dimanche à 13h avec un rassemblement festif pour la défense du terrain vague. C'est le titre de la manifestation, c'est « Floraison contre le béton ». Tout ça est organisé par Mobilisation 6600 Parc Nature. Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. Et à quelques rues de là, plus à l'est, il y a la 2e édition du carnaval anarchiste au terrain vague, qui est plus dans le coin de David-Sainte-Catherine, pour ceux et celles qui connaissent, tandis que l'autre est plus à l'est. Ça se passe donc vendredi 14 et samedi 15 dans le même quartier. Et l'événement que j'ai retenu, c'est pour la première fois, il y aura la grande parade des gueux et des tout-croches. Oh. On vous invite à vous déguiser à l'ancienne, selon votre imagination.
Donc, c'est Mathieu qui mène la parade.
Avec Simon juste en arrière. Donc, voilà. C'est que sinon, toujours dans Schlei, dans Schlegel-Maisonneuve, Manufaction pour le droit au logement, guerre au Airbnb. Ça se passe dans 2 semaines, le 28 juin, 9h30 à la Place Valois. On dit bouffe et plaisir après la manif. C'est organisé par le FLIP, le Front de lutte pour un immobilier populaire, à la veille donc du 1er juillet. Sinon, pour la Journée nationale des peuples autochtones, le 21 juin, Pop Montréal, NACUSET, le Foyer pour femmes autochtones et Résilience Montréal présentent un grand concert au Square Cabot dès 15h le 21 juin. Il y aura entre autres Mathieu, Anacnid, Beatrice Dearben et plein d'autres artistes autochtones vraiment intéressants. Et évidemment, le 21 juin, ben, il y a des manifestations, activités partout dans l'ensemble du Canada. Et en terminant sur les enjeux, ben, sur une... la culture autochtone, une nouvelle initiative à Montréal, vous allez sûrement trouver intéressante pour ceux et celles qui peuvent s'y rendre. Donc, je lis l'extrait. Jalonné d'œuvres sculpturales traduisant la rencontre entre les peuples autochtones et les nouveaux arrivants européens, le nouveau parcours urbain de la rue Peel à Montréal propose aux promeneurs de cheminer sur le thème du dialogue interculturel. Reliant l'eau et la montagne, ce parcours d'art public de plus de 2,5 km, un des plus longs d'Amérique du Nord, a été inauguré tout récemment, là, la semaine passée. L'œuvre qui se déploie en 11 stations sur la rue Peel comporte 21 sculptures sphériques réalisées par l'artiste Mohawk MC Snow et l'artiste montréalaise Kira Revenko, issue de l'immigration, et s'est baptisée « Nos récits, notre voix, parcours Peel ». Lors de ce périple ascensionnel qui commence sur les rives du canal de la Chine et se termine aux abords du Mont-Royal, le promeneur est invité à explorer les héritages des communautés autochtones et allochtones de Montréal, mais aussi à découvrir l'histoire qu'elles partagent. C'est le fruit d'une collaboration entre membres de la communauté Mohawk de Kanawagé, des artistes, mais aussi archéologues, architectes et acteurs de la ville. Ce projet d'envergure est né d'une volonté de révéler la présence autochtone en rappelant la découverte archéologique d'artefacts Mohawks sous les rues Peel et Sherbrooke qui ont eu lieu entre 2016 et 2019. Et on travaille sur ce projet-là depuis ce temps. Ça a l'air très beau, très intéressant. C'est deux artistes qui ont fait à chaque station deux œuvres et une commune à la fin. Donc, Simon, je t'invite à aller faire un tour sur la rue Peel dans les prochains jours.
J'ai croisé quelques œuvres déjà, mais faire le parcours de A à Z, ça doit être plus logique, plus cohérent.
Oui, oui, puis un balado pour accompagner le tout, veut aussi, évidemment. Donc, voilà pour l'agenda.
Si je peux peut-être ajouter...
Oui, vas-y, Marie-Ève.
Très rapidement, ne pas oublier que juin, c'est le mois les jolies autochtones.
Exactement.
Donc, tout ce qui est en lien avec la littérature autochtone, vous pouvez aller... si vous tapez dans un engin de recherche « Je lis autochtone juin », vous allez pouvoir retrouver le site web puis voir toute la programmation.
Toutes les activités.
Oui, ouais. C'est tout au Québec. C'est partout au Québec. Donc.
Merci, Marie-Ève. Avant qu'on se quitte dans la joie et l'allégresse avec une dernière pièce musicale, je vais vous parler de l'adoption du projet de loi 57 au Québec. Ça a passé, ça aussi, assez inaperçu. Ça s'est passé l'adoption la semaine passée à l'Assemblée nationale. Donc, les citoyens qui intimident, harcèlent ou entravent de façon abusive le travail d'un élu au Québec seront passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 $. La nouvelle loi permettra à une personne élue de faire appel à la Cour supérieure pour qu'elle prononce une injonction contre un citoyen qui la menace, l'intimide ou la harcèle. Le projet de loi 57 a fait l'objet de critiques de la part de nombreux groupes sociaux, de syndicats ainsi que de chefs d'entreprise, de directeurs d'entreprise de presse. Je cite un communiqué publié cette semaine de la Ligue des droits et libertés, du MEPAC et du RODCD. Malgré les amendements apportés, la loi présente des risques sérieux d'atteinte aux droits et libertés des citoyens, citoyennes et des organisations de la société civile. La notion d'entrave est trop large et ouvre la porte à une application abusive et arbitraire qui occasionnera des atteintes aux libertés d'expression, d'opinion et d'association, ainsi qu'un rétrécissement des espaces de contestation sociale. De plus, la loi adoptée prévoit une nouvelle infraction pénale pour avoir, je cite, « causé du désordre de manière à troubler de façon abusive le déroulement d'une séance municipale ». Depuis le dépôt du projet de loi 57 en avril, l'adoption a été en un mois à peine, un nombre grandissant d'organisations de la société civile ont levé les drapeaux rouges et mis en garde la ministre des Affaires municipales, André Laforêt. 334 organisations avaient signé la déclaration PL 57, un recul pour les droits et libertés, qui avait été transmise au gouvernement. Les organisations sont également préoccupées par les modifications législatives qui visent à donner préséance aux personnes lors des périodes de questions des conseils municipaux sur la base du statut de résidence, donc des gens seulement de la ville visée. Donc, ça pourrait exclure des groupes, évidemment, qui veulent venir poser des questions qui ne sont pas de la ville, mais qui sont des groupes, par exemple, nationaux ou régionaux. Il est à craindre que des organisations qui ne sont pas basées dans la municipalité et des citoyens qui n'y habitent pas soient limités dans leur capacité d'intervenir sur un sujet, un enjeu sociétal qui peut les toucher aussi de différentes façons. Donc, ça a été adopté un peu à la va-vite, c'est pour répondre à l'espèce de crise que les médias ont un peu aussi gonflé sur ce qui se passe dans les conseils municipaux, mais ça pourrait s'appliquer à un groupe qui va visiter un député aussi dans son bureau de circonscription qui rentre à l'intérieur pour le voir et qui décide de faire du chahut, par exemple. Donc, projet de loi 57, on parle souvent des abus dans d'autres pays dans le monde, mais aussi au Québec et au Canada, il peut y avoir des mesures répressives législatives qui sont adoptées.
Non, c'est ça. Puis comme tu dis, c'est clair que ça limite le répertoire d'action politique disruptive, comme on dit.
Disruptive,
oui,
oui.
Ouais, pour faire pression et... Oui, oui. Et qui peuvent être tout à fait légales, là, que ça n'a pas...
Oui, oui, puis il y a beaucoup de groupes dans cette... qui n'ont pas de porte-parole et de lobby qui vont rencontrer le ministre, donc ils doivent se faire entendre de différentes façons, dont dans les instances publiques
c'est
et
ça.
Auprès des élus. Donc, voilà. Fait que je dois en parler, parce que ça a été un petit peu... ça a passé en dessous des terrasses, là, puis du Grand Prix, puis de ces affaires-là. Là,
en dessous des affaires importantes.
Oui, oui, ouais, tout à fait, des affaires fondamentales. Donc, on va se quitter là-dessus tranquillement. Merci beaucoup, Marie-Ève et Simon, pour votre contribution essentielle et intéressante.
Mon Dieu, essentielle. Ben, toi aussi, Mathieu.
Ça fait plaisir. Ben, moi,
quelle animation.
J'animais ça. Là, je faisais les baguettes en l'air. Là.
C'est ça, oui.
Donc...
Un bon Pierre Lalonde.
Bon, Pierre Brassard, peut-être.
Peut-être.
C'est peut-être mieux, oui. Donc, je vous rappelle qu'on est diffusé aux deux semaines en direct les jeudis à 18h30 et aussi sur choc.ca. Sur notre page d'émission pour les balados, notre site à patrizanonyme.info. On est diffusé sur Radio Victoria sur l'île de Vancouver, comme précisait Simon tantôt.
Sur les ondes hertziennes, comme dirait Marielle.
Hertziennes, exactement. Notre prochaine émission, normalement, est dans deux semaines, le jeudi 27 juin. Et on va se laisser avec une dernière pièce, une nouveauté qui est dans le palmarès international de Choc. Un artiste qu'on aime beaucoup, qu'on passe souvent à l'émission, qui s'appelle Mdou Mokhtar. La pièce « Au France ». Donc, on peut peut-être parler de la crise qui se passe en France actuellement cette semaine, Marie-Ève. Donc, l'album s'appelle Funeral for Justice. C'est quand même à propos. C'est sorti en mai dernier sur Matador Records. Il est toujours Mdou Mokhtar, basé avec son groupe au Niger. Et donc, il devrait venir nous visiter, j'imagine, dans les prochains mois, peut-être.
Et je crois qu'il y a des shows prévus.
Pas au Québec. Au Canada, j'ai regardé. C'est en Europe et aux États-Unis pour l'instant.
T'as-tu dit qu'il est au palmarès, Choc?
Oui,
il me semble qu'il palmarès, est en train...
oui, palmarès international de Choc. C'est rentré il y a quelques temps. Donc, merci beaucoup pour de nous avoir écoutés. Merci encore à Simon et Marie-Ève. C'est Mathieu qui vous dit à dans deux semaines et on passe une belle soirée.
Bonne soirée.